Bonjour à toutes et à tous, Jérôme Bernard pour ce journal d'ONU Info. Au menu, l'ONU discute de la création au Moyen-Orient d'une zone exempte d'armes nucléaires et d'autres armes de destruction massive. Les Nations Unies célèbrent le 30e anniversaire de l'adoption de la Convention relative aux droits de l'enfant. Au Mali, l'ONU a lancé un programme de formation pour des détenus à Mopti. Et en dossier, un responsable de l'Union Postale Universelle nous explique une initiative de soutien à des projets de services financiers numériques dans 8 pays. L'ONU accueille cette semaine la première session de la conférence sur la création au Moyen-Orient d'une zone exempte d'armes nucléaires et d'autres armes de destruction massive. L'occasion pour le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, de souligner l'importance d'une telle zone pour mettre définitivement fin à la possibilité d'un conflit nucléaire. Pascal Sim nous en dit plus.
La situation au Moyen-Orient demeure une sérieuse source de préoccupation pour le monde entier, a souligné Antonio Guterres. Des guerres civiles complexes font rage et impliquent des groupes armés non étatiques et des organisations terroristes bien équipées, ainsi que des puissances militaires régionales et internationales, a-t-il rappelé, et les civils payent un tribut dévastateur. Le secrétaire général a indiqué que les inquiétudes suscitées par les programmes nucléaires persistent et continuent d'aggraver les tensions et qu'à ce jour, aucune réduction significative des comptes n'a été établie pour l'utilisation d'armes chimiques. Le Moyen-Orient montre des signes de compétition active dans la course aux armements, notamment dans l'acquisition et l'utilisation de nouvelles technologies, a dit le chef de l'ONU. Pour Antonio Guterres, la création au Moyen-Orient d'une zone exempte d'armes de destruction massive, nucléaires, chimiques et autres, serait une occasion pour les États de la région d'engager un dialogue direct sur des arrangements susceptibles de répondre à leurs besoins en matière de sécurité. Il a également rappelé qu'une telle zone au Moyen-Orient devra prendre en compte la situation particulière de la région et renforcer la sécurité de tous les États.
Les Nations Unies marquent les 30 ans depuis l'adoption de la Convention relative aux droits de l'enfant. À cette occasion, l'UNICEF constate des gains historiques et des réalisations indéniables. Les enfants sont de plus en plus nombreux à vivre plus longtemps et en meilleure santé. Toutefois, des défis persistent, notamment pour les enfants les plus pauvres. L'ONU appelle à agir, tout comme le représentant adjoint de la Suisse auprès de l'ONU, qui a participé à l'événement organisé à Genève ce matin. On écoute Félix Baumann.
Un nombre alarmant d'enfants continue à vivre dans la pauvreté, dans des zones touchées par des conflits armés ou des catastrophes naturelles. Des enfants continuent à être utilisés comme des armes de guerre et sont confrontés à des dangers inimaginables sur certaines routes migratoires. Beaucoup d'enfants ne sont pas scolarisés, subissent toutes sortes de violences et de discriminations, d'abus, de négligence ou sont privés de liberté. Mais je tiens à souligner que les enfants ne sont évidemment pas seulement des êtres humains vulnérables qui ont besoin de protection. Les enfants sont des détenteurs de droits à part entière. Ils ont leur propre opinion et leur propre voix. Comme les récentes grèves du climat l'ont encore si bien illustré, les enfants sont des agents du changement. Ils ont le pouvoir d'influencer la politique. Et nous avons beaucoup de choses à apprendre de vous, chers enfants. C'est aussi votre participation qui me laisse espérer que cette conférence aura un impact et des résultats concrets. En tant qu'État, nous le devons à chacune et chacun de ces enfants de faire des droits de l'enfant une réalité. C'est notre responsabilité de prendre des mesures concrètes et de fournir les ressources adéquates afin de protéger les enfants et de leur offrir un espace sûr pour grandir, profiter de leur enfance et développer leur personnalité.
À Mopti, au Mali, la section des affaires judiciaires et pénitentiaires de la mission de maintien de la paix de l'ONU, la MINUSMA, vient de lancer un programme pour la formation d'au moins 25 détenus de la maison d'arrêt. Les détenus auront la possibilité d'être formés en menuiserie, bois et métallique ou à la fabrication de savon. La correspondance d'Ousmane Diadé Touré de Radio Mikado FM.
Les détenus de la maison d'arrêt de Mopti peuvent désormais se former en différents métiers en vue de leur réinsertion sociale une fois dehors. Fatou Dieng Cham, chef du bureau de la MINUSMA Mopti.
Un détenu, c'est vrai, il y a eu peut-être des infractions, des crimes qui ont été commis et qui se retrouvent en prison. Mais ça n'empêche pas que ça reste un être humain avec des droits et des obligations. C'est aussi notre responsabilité de leur donner les moyens de pouvoir se réinsérer plus tard dans la société. Il faudrait que tout le monde puisse avoir accès à ce projet, qu'on puisse aussi pérenniser.
Un projet de formation de détenus qui sert à plusieurs titres cette majorité qui n'avait pas de métier en entrant en détention. Capitaine Sibri Toumania, régisseur de la maison d'arrêt de Mopti.
En détention, il y a beaucoup qui n'ont pas de métier. Donc au niveau de la maison d'arrêt, on les apprend beaucoup de métiers pour à leur sortie, qu'ils ne puissent pas revenir pour éviter un peu la récidive.
Ousmane Diadé Touré, Mikado FM, Mopti.
L'Union Postale Universelle a annoncé récemment qu'elle comptait appuyer des projets de services financiers numériques avec les opérateurs postaux dans 8 nouveaux pays, dont l'Égypte, le Maroc, le Nigeria et la Tunisie. Ces projets de numérisation cherchent à profiter du vaste réseau des postes pour étendre l'inclusion financière. Pour en savoir plus, Christina Silveiro a joint Youssouf Sy, responsable du mécanisme de l'Union Postale pour l'assistance technique à l'inclusion financière.
L'Union Postale Universelle a lancé en 2017 un mécanisme qui s'appelle le FITAF avec le support de deux donateurs dans le domaine de l'inclusion financière, la fondation Bill Gates et Visa. Et en fait, cette facilité a pour objectif d'appuyer les postes dans la numérisation pour vraiment étendre l'inclusion financière. L'inclusion financière touche beaucoup de pays. Aujourd'hui, il y a 1,7 milliard de personnes qui n'ont pas accès à des services financiers formels. Et donc, l'UPU, à travers les postes, contribue à étendre et à mieux développer l'inclusion financière.
Quand vous dites 1,7 milliard d'adultes sont exclus, c'est l'exclusion financière, c'est ça ?
Absolument. C'est des personnes qui n'ont pas un accès formel à un service qui est offert par une institution formelle comme une banque, comme une poste, comme une société d'assurance. Donc il y a plein de personnes, donc plus de 1,7 milliard d'après la Banque mondiale, qui ont accès aux services financiers à travers le secteur informel. Et qui dit secteur informel dit beaucoup de problèmes, dont un problème au niveau des coûts, ça coûte plus cher, un problème au niveau de l'accès à d'autres services, et il y a beaucoup d'abus dans ce secteur informel.
Alors, ces projets consistent donc à appuyer la numérisation des centrales de poste qui sont réparties à travers le monde. Pourquoi est-ce que c'est important la numérisation ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Comment est-ce que ça va marcher ?
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les postes sont actifs dans le secteur des services financiers depuis 1861. Et les postes ont toujours joué un rôle premier dans l'offre de services financiers, principalement dans les services de transfert d'argent et aussi l'accès à des comptes d'épargne. Mais on a vu de plus en plus que les postes, au cours des dernières années, ont un peu perdu de leur présence à cause, premièrement, d'un manque de numérisation de leurs services financiers et, deuxièmement, à cause de l'arrivée de nouveaux acteurs dans ce secteur, dont les sociétés de télécom et les fintechs. Le grand problème que beaucoup de postes ont, c'est qu'avec la chute des revenus sur les produits traditionnels de la poste, comme les envois de lettres, les postes sont moins rentables aujourd'hui et donc sont moins amenés à pouvoir faire des investissements leur permettant d'acquérir tous ces produits qui leur permettent d'offrir la finance digitale. Pour répondre aux besoins de la clientèle aujourd'hui, il est impératif de s'appuyer sur des outils numériques, tels les téléphones mobiles, tels les logiciels qui permettent par exemple d'offrir des services de banque en ligne. Alors ce que nous faisons à travers notre facilité, nous permettons aux postes d'avoir accès à des financements qui leur permettent d'avoir suffisamment d'assistance technique et de financement pour acquérir des logiciels, pour pouvoir aussi bénéficier d'expertise pour la mise en place de services en finance digitale. Et nous faisons ça dans 15 pays pour l'instant. Nous avons sélectionné 15 pays et dans ces pays-là, nous offrons des services de portefeuille électronique, des services de banque en ligne, des services d'épargne numérique et d'assurance.
C'est un exercice qui a été lancé en 2017. Est-ce qu'il a marché ?
Tout à fait. Nous avons donc lancé le programme en 2017. Nous avons sélectionné 7 postes qui ont bénéficié de nos financements et de notre assistance technique. Et ces pays sont par exemple le Vietnam, où ils lancent un projet d'assurance sur la base d'un téléphone mobile. Et ce projet est en cours de mise en place. Nous avons aussi des projets avec la Poste du Bénin, qui est en train de mettre en place un portefeuille électronique et une banque en ligne. Et ces projets sont quasiment finalisés. Nous avons aussi d'autres projets avec des postes qui sont dans la région Pacifique, où là, nous les aidons à travers des études de faisabilité pour qu'elles comprennent les opportunités en finance digitale. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a envoyé une équipe qui a pris le temps de rencontrer tous les acteurs et réellement de leur proposer des solutions concrètes pour se lancer dans la finance digitale.
Voilà, fin de ce journal d'ONU Info, retrouvez notre page internet et nos comptes Twitter et Facebook. Merci de votre fidélité, on se retrouve demain, même heure, même fréquence.